parabole du jour avec le Père Willem.
Des chrétiens s'engagent. L'archevêque anglican Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, pour sa lutte contre l'apartheid, a écrit un livre très très important. Ce livre est consacré à la Commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud, immense opération de prise de parole où l'amnistie était accordée à titre individuel en échange d'aveux complets relatifs aux violations graves des droits de l'homme et où les victimes pouvaient s'exprimer pour retrouver leur dignité. Il n'y a pas d'avenir sans pardon. Comment réconcilier après l'apartheid? Tel est le titre de l'ouvrage de Desmond Tutu. Pas d'avenir sans pardon. Ce 10 mai 1994, Nelson Mandela a été élu président de l'Afrique du Sud et s'est révélé un ardent défenseur de la réconciliation nationale, comme nous l'avons dit. Cet homme qui avait été calomnié, traqué comme un dangereux fugitif, emprisonné pendant près de 30 ans, deviendrait bientôt l'incarnation du pardon et de la réconciliation, évitant ainsi à l'Afrique du Sud un bain de sang et permettant au pays de se reconstruire peu à peu. Desmond Tutu nous livre quelques clés de ce passage quasiment miraculeux. L'une d'elles se trouve dans ce qu'il appelle Ubuntu. Ubuntu ou Buto, selon les langues africaines qui sont nombreuses. Ubuntu ou Boto. Et on utilise souvent ces mots. Ubuntu, Boto. C'est une clé d'ouverture au dialogue. Oui, c'est une vision de la communauté humaine où prévaut l'harmonie, le sens des liens profonds entre les humains. Ce qui déshumanise les uns déshumanise fatalement les autres. Respecter l'autre, c'est se respecter soi-même aussi. Et dans cette optique, les démarches de réconciliation prennent tout leur sens. Elles visent à rétablir dans le groupe ce qui importe au plus haut des points, c'est-à-dire la réparation des dégâts, le rétablissement de l'équilibre, la restauration des relations interrompues, la réhabilitation de la victime, mais aussi celle du coupable, auquel il faut offrir la possibilité de réintégrer, d'être de nouveau en lien dans la société, de pouvoir vivre des relations en abandonnant tout préjugé, tout parti pris, en étant homme pour un autre homme, un compagnon de route pour un autre homme. Donc c'est un défi qui a été vécu en Afrique du Sud avec cette commission Vérité et Réconciliation. Et ça a été finalement, comme but premier, d'étendre à tout le pays, un pays immense et diversifié, qu'est l'Afrique du Sud, étendre ce mouvement de respect mutuel, apprentissage de l'écoute, reconnaissance de la différence de l'autre, la différence n'étant pas une menace pour chacun, mais au contraire une source d'éveil de l'esprit, une source de dilatation du cœur. D'ailleurs, ce que nous disons là ne concerne pas l'Afrique du Sud, elle concerne aussi notre pays, qui se définit par trois mots, mais encore faut-il les découvrir dans la réalité du quotidien, dans la pratique de ce que nous appelons la laïcité, liberté, égalité, fraternité. Une autre clé importante se trouve dans la dimension spirituelle de la commission. Nelson Mandela a désigné donc cet archevêque d'Espan Tutu et non un juge pour présider les travaux de vérité et réconciliation. Il a ainsi engagé cette commission dans une orientation profondément spirituelle, sans doute nécessaire quand il s'agit de réconciliation, c'est-à-dire une réalité peu connue dans le domaine politique. Peu connue, malheureusement. L'enjeu des séances de la commission était de créer dans tout le pays une mémoire libérée de l'amertume de la revanche. Il ne s'agissait pas de passer l'éponge, mais de faire la différence entre l'acte et celui qui l'a commis. Seule cette perspective ouvre le chemin du pardon et de l'avenir. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud était tout à fait exceptionnel et n'a pas pu se reproduire ailleurs avec la même ampleur. En effet, le processus de réconciliation en Afrique du Sud a bénéficié d'une volonté politique déterminée et courageuse, portée par l'engagement concret de dirigeants remarquables par leur stature humaine. Le président du pays, Nelson Mandela, et Desmond Tutu, l'archevêque anglican. Le Rwanda, par exemple, n'a pas bénéficié des mêmes conditions, ni même les tribunaux communautaires villageois ont permis certaines formes d'apaisement et de réparation, certes. Mais l'ensemble du pays n'est pas entré dans cette nécessaire réconciliation qui s'ouvre à l'avenir et ne ressasse pas indéfiniment le passé. En Israël, la mort de Mandela a suscité de l'émotion chez l'un de ses anciens compatriotes, c'est-à-dire le père David Neuhaus. David Neuhaus n'est pas bien connu ici. Né en Afrique du Sud, dans une famille juive allemande qui avait fui le nazisme, David est parti vivre en Israël et il est devenu chrétien, puis religieux jésuite. Il est maintenant vicaire du patriarcat latin de Jérusalem pour les communautés catholiques qui parlent hébreu. Beaucoup de membres de ces communautés sont des immigrés venus d'Afrique et d'Asie, car le mouvement des immigrés a commencé depuis bien longtemps et beaucoup de pays d'Afrique les connaissent bien. Et là, il parle, ce père jésuite, David Neuhaus, il parle couramment l'arabe et plusieurs amis palestiniens le reconnaissent comme un frère. Et il se dit actif à plein temps dans la société palestinienne. En tant qu'homme d'église, il a la possibilité de traverser les barrières, les frontières, dit-il, et de chercher à faire le lien entre ces mondes, oui, on peut dire ces mondes séparés. Au lendemain de la mort de Mandela, David Neuhaus reconnaît ce qu'il doit à son héritage sud-africain dans son engagement actuel. La sensibilité à l'injustice et l'impératif d'y résister. Il refuse de faire des amalgames entre l'apartheid et la situation qui prévaut aujourd'hui entre Israéliens et Palestiniens. Mais ce qui s'est passé dans son pays natal lui donne de l'espoir. Même si la situation paraît bloquée, il garde l'espoir que le conflit pourra être dépassé. Il se laisse inspirer par le langage de la réconciliation de Nelson Mandela. qui ne comptait aucun désir de vengeance, malgré les souffrances endurées. Or, nous avons besoin de réaliser à quel point notre langage ici est imprégné du mépris pour l'autre des deux côtés. Changer ce discours est parmi nous la première condition d'un vrai dialogue. Et le rêve de Nelson Mandela, c'était celui d'une Afrique du Sud où l'on ne regarde plus un homme en fonction de la couleur de sa peau. Mon espoir, c'est de convaincre la population de cette terre de ne pas juger un homme selon qu'il est musulman, juif, israélien ou palestinien. Mandela a pu, de son vivant, vivre la réalisation de son rêve. Espérons que nous aussi pourrons le faire. Rêver pour réaliser, s'engager résolument, déterminé dans la mise en œuvre d'une réconciliation dont nous avons besoin en France, dans notre monde, si divisé en politique, alors que notre société aurait besoin d'hommes d'action capables de travailler ensemble dans la diversité de leurs engagements politiques. C'est urgent d'accomplir ce travail en profondeur.